Bonjour à l'équipe de là-bas si j'y suis. Alors nous, on a une rentrée difficile ce matin. La maternelle pour le petit, deuxième année, et puis ça devait être le remplaçant qu'on connaissait, et puis c'était un remplaçant du remplaçant. Alors mon gars, il s'est mis à pleurer, puis il s'est accroché à moi, et puis l'instit, alors un peu maladroit, il a essayé de me le tirer les bras, et plus il lui tirait sur les bras, et moins ça marchait, et... Je lui ai dit, c'est pas par la force que vous arriverez à quelque chose. Et on a essayé de raisonner ensemble, mon gars et moi. Et puis au moment où je suis partie, ben, l'instit l'a tenu pour pas qu'il me suive, alors que je pense que c'était, ça aurait pu marcher. Et bon, ça s'est fini en larmes. J'ai quitté la salle dans un état lamentable. J'imagine que c'est pas drôle d'entendre des pleurs d'enfants. Et puis il y a un parent d'élève en sortant qui m'a dit, pensant bien faire, faudrait que tu l'endurcisses ton garçon. Eh ben non, j'ai pas du tout envie de l'endurcir, quoi. J'ai pas envie, je passe mon temps à être emmerdée par des gens qui sont durs. J'ai pas envie qu'il soit dur, j'ai envie qu'il montre ses sentiments. Et puis les gens, quand ils montrent leurs faiblesses, c'est peut-être là moi qui m'intéresse le plus. Voilà, au revoir à tous.
Oui, bonjour Daniel, ici Michel du Puy-de-Dôme. Si on écoute messieurs Raffarin et ses copains, la canicule a fait du bon travail cet été. Elle a permis de verser presque 12 000 recettes en moins. Quelle aubaine. Ça a juste dérangé un peu les vacances, mais qu'à ça ne tienne. On va supprimer un jour férié la France d'en bas. Ernest Antoine est ravi. Quelle aubaine. Face à cette désinvolture, je propose que l'on envoie des pétitions à ces messieurs du gouvernement, Mattei et consorts, exigeant d'instaurer un jour dédié à la mémoire de toutes ces personnes qui font partie de notre mémoire collective, pour lesquels l'État a jugé inutile de prendre les mesures indispensables qui s'imposaient à leur survie lors d'un événement aussi banal que 3 semaines de canicule. J'ai honte de notre République qui, en lieu et place de liberté, égalité, fraternité, devrait inscrire au fronton de ces édifices publics égoïsme, individualisme, laxisme.
Oui, il ne faut pas exagérer, il n'y a pas que des mauvaises nouvelles en cette rentrée. On parle là des 11 435 décès excédentaires, disons, au moins pour l'instant. Mais il y a ceux qui ont résisté, il y en a qui ont très très bien résisté. Si vous prenez par exemple Maurice Papon, eh bien, il a tenu, c'est un vrai résistant, l'ancien trésorier du RPR a très bien passé l'été, il est bien entouré. Puis il y en a un autre qui a tenu aussi, et ça nous réjouit, c'est Marcel Mathiot, le papy de là-bas, si j'y suis, 92 ans, ouais. On sait pas, on se demande s'il exagère pas un peu dans un sens ou dans l'autre. Mais enfin, voilà, c'est le chiffre qu'il avance, 92 ans. Alors, on s'est inquiété avec Claire Auter, on l'a appelé, et ça va bien. Et il va nous raconter son été, Marcel, aujourd'hui. Et puis, on va en profiter pour se balader aussi dans son passé. Mais auparavant, d'autres messages sur le répondeur de la base si j'y suis au 01 56 40 37 37.
Ouais, salut Daniel, Jean-Pierre, du Vaucluse, là. On attend avec impatience la reprise de ton émission, parce que ça nous manque un peu tout ça. Je pense que France Inter, d'ailleurs, dans les infos, c'est un peu lisse, là, c'est bien PCPE, pas de couilles, pas d'embrouille. Tu me manques. J'étais beaucoup pensé à toi. Au Larzac, on était bien là-bas, quand même. On a senti un espoir. Il manque rien, là, tout à l'heure. Je suis en train de bouffer, là, j'ai fini de manger, je mange dehors, je suis un ouvrier à l'école, là. Le train, elle est tout à l'heure, merci. Bonne continuation, bonne rentrée, ciao.
Oui, c'était juste pour dire, j'entendais tous les gens qui se lamentaient qu'on n'entendait plus l'émission à la radio. Moi, personnellement, ça me manquait pas, au contraire. C'était juste pour mettre un bémol et dire que certains n'ont pas spécialement envie d'entendre Mermet. Personnellement, j'aimerais bien que Martin Minclair revienne. C'est Michel de Sambiali.
Bon, allô, Daniel Mermet, bonjour. Bon, moi, je vous appelle au sujet de la CMU. On m'a retiré ma CMU, c'est-à-dire la caisse complémentaire, parce que j'en ai pas. Je touche en tout 578 euros par mois. Et la CMU est de 562 euros. Alors, ils ont trouvé une combine pour arriver à nous faire sauter la CMU. c'est que je touche l'aide du logement. Alors, on me compte 46,65 € de forfait de logement dans la retraite. Donc, avec une retraite de 578 € par mois, je ne peux plus me soigner. On m'a supprimé la CMU depuis un an et demi.
Salut Daniel et toute l'équipe, voilà c'est Jean-Pierre de l'Oise. Je convie tous les auditeurs de France Inter et de l'émission Là-bas si j'y suis à venir par solidarité aux petits vieux abandonnés qui vont être enterrés, il y en a 75 qui restent, dans le carré des indigents au cimetière de Thiers dans la région parisienne. Le carré des indigents était réservé au SDF. Maintenant il y a les petits vieux. Dans 5 ans, on n'en parle plus, on en remet d'autres. Salut.
10 000 maisons de retraite en France, et selon le secrétariat d'État aux personnes âgées, eh bien 5 à 10% d'entre elles, ces maisons de retraite, sont indignes. Soit entre 500 et 1000 maisons de retraite en France. Et, toujours selon le secrétariat d'État aux personnes âgées, 20% des 650 000 lits sont totalement inadaptés. Voilà des choses qu'il est peut-être bon de rappeler en ces jours. Et il faut peut-être rappeler en ces jours, si que nous vivons, que si évidemment le gouvernement n'est pas responsable de la canicule, il y a 6 mois, il y a eu la suppression d'un crédit de 400 millions d'euros par an consacré au financement de l'APA, c'est-à-dire l'aide personnalisée à l'autonomie. On l'a dit, mais c'est pas mal de le redire. Et d'évoquer aussi la suppression d'un budget de 100 millions d'euros prévu pour l'amélioration de ces mêmes maisons de retraite. Il n'est pas rare qu'une seule aide-soignante est à la charge de 10 personnes dépendantes. Voilà des choses qui n'est peut-être pas superflu de rappeler. Et de rappeler aussi que la dépendance est un marché porteur. Les groupes privés ont multiplié par 7 leur chiffre d'affaires depuis 7 ans. Alors on va retrouver Marcel Mathieu, mais imaginez la scène suivante. Imaginez 11 435 bibliothèques qui brûleraient d'un seul coup. Vous imaginez l'incendie, vous imaginez les forêts que ça représente, hein, ces forêts dont on fait le papier. Sauf que là, c'est pas des arbres, c'est des hommes, c'est des femmes. Je dis ça parce que vous connaissez la phrase fameuse « Un vieillard qui meurt, c'est une bibliothèque qui brûle ». Je ne sais plus qui a dit ça. Je crois que c'est un Africain qui a dit ça, si ma mémoire ne me trompe qu'à moitié. Et dans la consternation que nous partageons suite à ces morts, ces vieux morts de l'été, ces morts vieux de cet été, de cette canicule, bien sûr qu'il y a la gestion absolument cynique du gouvernement, passons là-dessus, mais personne ne considère qu'il y a là une perte de mémoire. Dans beaucoup de cultures, la vieillesse est une valeur, le vieux est une richesse. Et les vieux morts de cet été, nous renvoient évidemment à notre mal-être, qui est le déni de la vieillesse et de la mort. Alors on va donc retrouver Marcel Mathieu, je vous l'ai dit, on a demandé, on l'a appelé ce matin, et il nous a donné ses nouvelles.
Je vous dis que j'ai 92 ans, et que je marche très difficilement, et que je ne réussis à vivre dans mon appart, à l'engage des jeunes tout de même, hein, que grâce à l'aide généreuse des voisins et d'une aide ménagère. Alors au mois d'août, ces personnes partent en vacances, et j'entre en hébergement dans une résidence qui comporte 3 étages. Au premier, les retraités, qui sont exactement 65, au deuxième, les convalescents, c'est pour, à peu près pareil, et au troisième, les hébergements temporaires. C'est là que je suis, dans les hébergements temporaires. Je paie 50 € par jour, soit 10 418 francs par mois. Il s'agit donc d'une résidence de bon renom et un peu bourgeoise. La canicule, alors nous parlons de la canicule rendait pourtant ces chambres intenables. J'étais au troisième étage sous les toits. C'était épouvantable. J'avais découvert qu'au rez-de-chaussée, dans le grand salon, on trouvait un peu de frais, et j'étais toujours seul, ce qui me paraissait étonnant. Personne ne s'était aperçu que qu'on pouvait être bien ici. Alors je pense que la plupart de ces gens ne pouvaient se déplacer. Il aurait donc fallu les descendre et que le personnel était sans doute insuffisant pour le faire pour tout le monde. J'ai été un moment révolté par le manque d'humanité de certains membres du personnel en soignant, hein, certains. Beaucoup de ces vieillards souffraient terriblement, surtout au cours de ces nuits étouffantes. Je voyais cette bonne vieille demoiselle la priver de calmant par l'autorité de la moindre aide-soignante et qui vivait l'enfer pendant ces nuits. Que de souffrances étaient infligées à des êtres sans défense dans une résidence de bon renom. Ça me faisait un peu penser aux nuits dans les prisons, comme ça veut être atroce. Je vais payer jusqu'au 31 août. Et puis quand j'ai su que mes voisins étaient rentrés, je me suis sauvé, j'ai fait le mur. Et je suis rentré chez moi. La vue de ces déchets humains, je lis sur un petit calepin, hein. La vue à la date du 10 août. La vue de ces déchets humains m'a fait penser au risque de ma propre déchéance. Je suis entouré de malheureux, inconscients, privés de toute mobilité, ahuris, geignant la journée entière, les yeux hagards, ou au mieux, dormant sans cesse. D'autres, moins affligés d'apparence, restent dans leur fauteuil sans activité, n'échangeant que quelques propos sur le temps qu'il fait, sur la nourriture qui constitue l'essentiel de leur intérêt. Je revois mon ami, personnage puissant physiquement, craint pour sa sévérité, intransigeant dans ses opinions, et qui sombrait peu à peu dans une sorte de mort cérébrale dans la maison de retraite où on l'avait mis. Il en arrivait à regretter le flag où il avait été interné pendant la guerre 39-45, parce qu'il trouvait dans cette flag où il avait faim, il trouvait quand même une activité spirituelle avec des gens intelligents, des gens normaux, enfin des cultivés. Il regrettait ce naufrag. Comment s'aperçoit-on de la naissance de cette décrépitude? Comment y échapper autrement que par le suicide? Comment pourrais-je me suicider? Il existe une association pour le droit à une mort dans la dignité. Je vais prendre contact. C'est un sujet justement préoccupant, mais dont je ne vois pas la solution.
Ça sont des notes que vous avez prises cet été même.
Cet été même.
Dites-moi, Marcel, si vous remontez un petit peu plus loin dans vos carnets intimes, est-ce que vous vous souvenez comment ça se passait, par exemple, dans les années 20? J'imagine qu'à l'époque,
il y avait... Écoutez, je vais remonter jusqu'en 1915. Eh bien, je me souviens, quand j'avais 5-6 ans, pendant la guerre 14, j'étais très souvent chez des voisins, des jardiniers, vignerons, des gens très modestes. Il y avait là un ménage de gens d'environ 60 ans, qui me paraissait très vieux pour moi. Et ils avaient leur grand-père, enfin le père de la dame, qu'on appelait Cadet. Cet homme avait plus de 80 ans, ce qui était très important à cette époque. Et je me souviens, avec précision, que sa fille, ce monsieur Cadet, qui avait, sondait son père, qui ne pouvait pas faire pipi, qui avait une histoire de prostate sans doute, et il le sondait. Personne, je n'ai jamais vu une infirmière, hein. Mais il ne revenait pas à l'esprit de mettre leur père à l'hospice municipal, hein. C'était hors de leur pensée, ça. L'exemple que je vous donne n'est pas plutôt favorable. Jamais, il n'y avait pas de démonstration d'affection. Je ne voyais pas la fille embrasser son père, ça ne se faisait pas. Mais enfin, on ne s'insultait jamais. Jamais je n'ai entendu de dispute. Il y avait une espèce de d'indifférence polie. L'histoire avait l'air de marcher à peu près bien, hein. que c'est tout petit, hein. Mmh. 6, 7, 8 ans. J'ai connu ces gens-là jusqu'à entre 4 et 8 ans. Et plus tard, quand je suis arrivé dans mon... D'ailleurs, le nom monte à 1932. Quand je suis arrivé dans mon village, j'ai vu des gens qui... Là encore, on ne mettait pas ses parents dans un hospice. Quelquefois aussi pour des raisons d'argent, hein. C'était pas toujours pour des raisons sentimentales. Mais souvent, le vieux était mis à l'écart, quoi. Il mangeait à part, parce qu'il bavait, parce qu'il postillonnait. C'était un peu dégoûtant pour les autres.
Et est-ce que vous vous souvenez des premières, de l'apparition des premières maisons de retraite?
Oui, alors quand on a créé des maisons de retraite, dans les années 60-70, dans mon village, là.
Oui.
Alors, la maison de retraite, qui comportait des chambres individuelles, avec tout le confort, a paru un paradis pour ces gens qui sortaient de taudis ignobles, sans sanitaire, sans eau, quelquefois sans électricité quand même. Nous avons considéré ça comme un progrès. J'ai participé à l'inauguration de la maison et on créait quelque chose de formidable. Mais, on avait oublié une chose, c'est que ces gens, dans leur chambre seule, s'ennuyaient. J'ai mis ma propre mère, ce qui est un remords pour moi, qui ne s'éteint pas, dans une maison de retraite, dans cette maison de retraite, parce que ma femme ne voulait plus la soigner ou ne pouvait plus, et que moi je ne pouvais pas non plus. Et ma mère était là, elle était à peu près inconsciente, enfin on s'imaginait qu'elle était inconsciente, comprenez-vous? Mmh. C'est pas que elle ne pouvait plus parler. Alors on croyait qu'elle l'était-elle vraiment, on ne sait pas. Hein. C'est un remords qui me poursuit tout le temps, ça. Mais on a cru bien faire. Je l'ai la voir tous les jours, quand même. On a cru bien faire, mais je pense qu'elle a dû s'ennuyer, souffrir, peut-être.
Souffrir, hein?
C'est possible, oui. Dans ma maison de retraite, je n'ai pas remarqué de mort. Mais mon fils me dit... tu sais, hein, dans les maisons de retraite, les gens disparaissent sans qu'on le sache. J'ai vu tout de même devant moi, à la table, une dame s'effondrer. Hein, elle était morte.
Devant vous?
Ah, oui, à côté, à la table à côté. Il y avait une dame, tout d'un coup, je l'ai vue s'effondrer, et elle était morte. On l'a emmenée. Tous ses voisins n'ont pas eu l'air de s'en inquiéter, d'ailleurs. Je continue à déjeuner. Voyez-vous, comme quand on meurt facilement, hein.
C'est une scène.
Dans l'indifférence générale.
Dans l'indifférence générale?
Oui. Ben, dans l'indifférence, ces gens-là eux-mêmes étaient à peu près inconscients, hein. Ils étaient là pour mourir. Mm. C'était leur destinée.
Alors j'imagine que vous avez retrouvé avec bonheur votre appartement.
Oh, bien sûr, oui. Bien sûr. J'ai retrouvé mes amis qui sont aussi... agréable avec moi.
Calepin de Marcel Mathiot qui vraiment regarde la mort en face, hein. La vie en face et la mort en face, la lucidité extraordinaire de Marcel Mathiot, 92 ans, et ce qu'il dit là, ben il l'écrit, vous avez vu, il écrit un remords qui ne s'éteint pas depuis je ne sais combien d'années. Marcel Mathiot tient ses carnets chaque jour, c'est une œuvre considérable. Je ne sais pas s'il a envie qu'un jour ce soit édité, mais ce serait absolument merveilleux. Voilà, alors on va se balader dans ces carnets. On va maintenant avec Claire Otter en savoir plus sur le parcours de Marcel Mathiot. Marcel M. Salut, c'est Daniel Mermet avec Claire Otter, les carnets de Marcel M.
Flight number 2, arriving from
Singapore. C'est à partir de 70 ans que j'ai connu l'amour. Le vrai amour. On était fous l'un de l'autre. Il s'appelait Yvonne.
enfants vieillissants. Je fais ça en Francis. Et ça m'émeut encore. Tu fais bien, Francis. J'admirais les brigands du Front National. Ces gens qui sacrifient leur vie pour la liberté. C'était beau, hein? C'était plus courageux que moi. Je me cramponne toujours à l'espérance. Et puis, je dois dire que les gens sont très gentils avec moi. Et je me demande pourquoi. J'avais beaucoup plus peur de la mort à 50 ans qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, je n'en ai plus peur. C'est bizarre.
Qu'est devenue depuis la Madelon jolie des années 16? A-t-elle toujours les yeux étonnés d'être si bleue, la taille à l'aise? A-t-elle toujours ce geste de la main un peu leste pour dire ce passage à ses amis d'un jour, amoureux des contours de son corsage? Dans quel village est-elle, loin de sa clientèle, dans quel conterie? Sous le ciel de quelle ville vit-elle encore agile ou retirée? Est-elle passée près de moi dans la rue quelquefois, mon cœur en tremble? A-t-elle dans sa famille, qui sait, une jolie fille qui lui ressemble? Qu'est devenue depuis la Madelon jolie des années 16? A-t-elle toujours les yeux étonnés d'être si bleue, la taille à l'aise? A-t-elle toujours ce geste de la main un peu leste pour dire « Sois sage » à ses amis d'un jour, amoureux des contours de son corsage? Ils sont restés fidèles, commentons auprès d'elle, ils venaient boire à la santé de la France, à l'oubli de la souffrance, à la victoire. Vision de ces images qui furent celles d'un bel âme et qui s'effacent. Le feu sur un toit de chaume et l'empereur Guillaume comme le temps passe.
Il y a ceux dont la vie se vit sans eux, il y a ceux qui vivent leur vie sans la comprendre, il y a ceux dont la vie s'éclaire par la fin, il y a les légers, il y a les lourds, mais qui songent vraiment à son parcours. Il y a ceux qui sont toujours sur la photo, les marioles, les malins, ceux qui les roulent à la radio, et puis il y a ceux qui, tel Fabrice à Waterloo, passent à côté. Cela ressemble un peu à Monsieur Marcel. On comprend pas toujours tout sur le coup, mais après, à retardement, comme les bombes du même nom qui exploseront des années plus tard, une nuit, dans le noir, on se réveille, quelque chose s'est passé, la vie tout simplement. Comme cette heure qui va passer, comme une vie qui est presque passée, qui serait un déjeuner de soleil, un déjeuner sur l'herbe, né en l'air, à la Fred Astaire. Monsieur Marcel, M, on va l'appeler, raconte sa vie, il a 92 ans, il a écrit ses carnets, à chaque instant de sa vie, il a noté tout ça, il a pensé tout ça, au moment qu'il n'était pas forcément sur le coup, mais plus tard, à reculons, tout d'un coup, il s'est rendu compte de ce qu'il avait vécu, mais au moins a-t-il pensé sa vie, un jour ou l'autre, pensé sa vie, pensé son époque, Et puis, Monsieur Marcel a été un amoureux des femmes, comme il se doit, comme on doit, et de la vie aussi. Et il a réfléchi à tout ça, et c'est tout ça qu'il nous livre, avec une désinvolture apparente, une légèreté qui dure une heure.
Alors, quel jour ? 21 novembre 2001.
Sur le chemin, je rencontre la veuve de mon copain, disparu il y a quelques ans. Elle m'embrasse chaudement. Elle est assez aguicheuse, cette petite bonne femme redouillarde. Et quand elle m'embrasse et me serre d'un peu près, j'ai une sensation que je dois bien considérer comme érotique. Elle se plaint de sa solitude. J'irai vous voir, oui, avec plaisir. Je me doute de ce qui pourrait se passer si nous étions seuls un après-midi. Je repousse la tentation. À 91 ans bientôt, je ne vais pas multiplier les maîtresses, mais les appâts de la veuve me troublent.
Marcel, ça c'est... Mais vous êtes vraiment un être frivole. Hein?
Inconstant. Inconstant et volage. Et je ne m'améliore pas en vieillissant. Je suis né à Amiens, le 10 décembre 1910. Mon père était chef de musique militaire. J'étais là le jour du mariage de ma mère. Ça m'étonnait un peu, hein. C'est une douzaine d'années. Eh bien, ils étaient en avance sur leur temps, hein. Parce qu'ils vivaient, c'était rare, ce mois-là. Très rare, parce que ma mère était d'une origine très humble. C'était, vous savez, une de ces gosses de la campagne qu'on envoyait bonnet ou frère chez des bourgeois. Alors, je ne sais pas comment ils s'étaient rencontrés, enfin, de leurs amours, j'étais né. Alors, ils se sont mariés en 1912, ça fait 2 ans. Et ensuite, nous sommes allés à Issoula, où j'ai passé toute mon enfance, et la guerre 14, jusqu'en 1919.
Vous avez des souvenirs de cette guerre de 14 ?
Oui, oui. Et je n'ai malheureusement que de bons souvenirs. Parce que j'étais enfant de 4 ans à 8 ans. Alors il y avait à Issoula un grand camp militaire. Et dans ce camp militaire sont arrivés les prisonniers allemands, qu'on appelait Bosch tout le temps. On ne connaissait que le nom de Bosch. Et puis ensuite des Russes, parce que le tsar nous envoyait des soldats russes. On lui envoyait 100 fusils. Il nous envoyait 1000 bons hommes. Alors, comme il n'y avait pas assez de fusils et 3 dames, nous faisions l'échange. 100 fusils, 1000 bons hommes. Ensuite, il y a eu, des gens de couleur. À ce moment-là, les Noirs étaient tous des Sénégalais. C'était formidable. Vous comprenez, vous voyez, un enfant qui vit à côté d'un camp comme ça. Je ne me rendais pas compte de la mort des gens.
Mais votre père, il n'a pas fait la guerre de 14 ?
Si. Et mon père était chef de musique, c'est-à-dire chef des brancardiers. Alors, il était tout de même protégé. Vous comprenez ? Mon père n'a jamais été vraiment dans les tranchées. Une chose me surprend quand même, c'est que mon père est revenu en permission au cours de la guerre, et lui, qui était officier, qui était un peu éloigné du front, il avait des poux. Ses vêtements étaient... Vous vous rendez compte comment faisaient les autres, hein. Ça m'avait frappé, ça.
Il écrivait à sa femme, j'imaginais.
Oui, oui.
Et dans ses lettres, il racontait pas l'horreur de la guerre.
Non, et pour moi, je lui écrivais aussi. Et puis j'en ai encore des lettres où je disais, « Oh, papa, vivement que je sois grand pour aller me battre avec toi contre les Boches. » J'écrivais ça, j'avais 8 ans. Voilà qu'on était élevés pendant la guerre 14. On était élevés pendant la haine du Boche.
Oui, c'était le patriotisme.
Oui, c'était le patriotisme. On était patriotes.
Mais ça s'est quand même effondré à la fin de la guerre, non ?
Non.
Donc cette conscience de la guerre de 14, de cette horreur, de cette boucherie, elle est venue bien plus tard, au fond.
Elle est venue plus tard. Maintenant, je suis révolté par cette guerre. Révolté. Mais plus je vieillis, plus l'horreur de l'imbécilité de cette guerre 14 me met en colère.
Alors, évidemment, c'est ça le secret. Le mot est lâché, c'est la colère. C'est la colère contre la guerre, c'est la colère contre un tas de choses. Voilà ce qui tient Marcel Mathieu depuis aussi longtemps. La colère et l'amour, évidemment. Alors, il y a la guerre de 14, il y a sa première fois à 17 ans. Et oui, à 17 ans. Et puis, il y a un certain été 1936 où Marcel Mathieu prend conscience, il est là, il vit, il vibre cette époque, et puis il se passionne, il est né en 1910, donc là, voilà, ben, il a 26 ans, il se passionne et il s'enflamme pour les brigades internationales, la guerre d'Espagne, et il y pense, il est là, il est devenu instite à ce moment-là. Et puis c'est la Deuxième Guerre mondiale. Ben oui, qu'est-ce que vous voulez? Vous avez compris. Je suis en train de faire un raccourci parce que 92 ans dans une heure, ça fait long.
Vous vous mariez, mais j'ai l'impression que c'est sans enthousiasme.
En vérité, oui. Pour moi, c'était comme une espèce de devoir.
Déjà, dès le départ.
Oui, dès le départ. Et toute ma vie.
Toute votre vie.
Oui. C'est mal de dire ça. Je dis la vérité.
Vous êtes resté marié combien de temps?
À 70 ans. 70 ans. Ma femme est morte il y a 2 ans. Mais toujours attachée à moi.
Est-ce qu'à l'époque, on ne divorçait pas?
Ben non, on ne divorçait pas. Pour moi, ce n'était pas possible de divorcer. Pendant la guerre, à Reims, j'ai connu une petite jeune fille. J'étais gestionnaire de l'hôpital. Vivant gestionnaire, c'était un gorge, c'était un lieutenant.
Là, vous preniez pas la guerre très au sérieux à ce moment-là.
Je ne pensais plus. Et la vraie guerre a commencé le 10 mai, je n'ai rien vu.
Ah,
oui. Je n'ai rien vu.
De 39 à 45, vous n'avez rien vu.
Oui, rien vu. Ça peut paraître étonnant, hein. Ce 23 novembre 1939, nous étions allés faire des courses à Reims. Je me trouve devant une jeune beauté, radieuse, un éblouissement. Et c'est ainsi que naquit le grand amour d'un vie, et que je célèbre encore par une azalée, elle reste à Yvonne.
Ah, c'est Yvonne, que vous avez rencontré dans ces circonstances.
Voilà. Oh. On s'est revus 40 ans après.
Alors vous, là, vous sortez une photo de votre portefeuille? Ah oui, elle est ravissante.
En 1980, je savais qu'elle tenait un salon de coiffure. Je vois le numéro sur le... Puis j'appelle. Elle me dit, c'est toi? 40 ans après. Alors on s'est revus. Et alors là, c'était le grand amour.
Le coup de foudre à nouveau.
L'amour fou. C'est vrai. L'amour fou. J'étais fou. C'est beau la vie. Nous dansions à l'Eldorado sur le boulevard Magenta, près de la gare de l'Est. La lumière de la salle était tamisée, un gros globe à facettes tournait au plafond. Nous nous asseyions sur une banquette dans l'ombre. Nous étions les enfants qui s'aiment. Non, ce n'était pas ridicule. J'avais 70 ans, là. Nous n'avions plus d'âge. Nous serrions l'un contre l'autre, les mains enlacées. Nos regards se caressaient. Se parlait d'amour. Nos lèvres se prenaient dans l'ombre. Les piliers de verre envoyaient l'image de nos corps enlacés. Étourdis, nous sortions sur le boulevard. L'hôtel n'était pas loin. Nous pressions le pas dans la hâte de nous aimer, dans l'ivresse du dernier soir.
Alors en 47, vous avez rencontré Lisette, et puis ça a été un grand amour platonique.
Platonique, mais des esprits. L'amour des esprits.
Ouais. C'est un véritable roman, votre journal.
Mais alors elle dit, oh, tu sais, on a toujours été très bien. Alors je dis, je vous embrassais. Tu ne te défendis pas. Après la classe, je partais en vélo dans la nuit d'hiver pour passer quelques minutes avec toi, musculaire. Nous nous embrassions, nous rions, et il me semblait bien, quoi que tu t'en défendes, qu'un soir tu défies ma ceinture. Oh! Le manque de sang, l'environnement peu propice, nous évitèrent d'être amants, et nous restâmes amoureux, regrettant de n'avoir pu nous marier.
Chansons qui ont compté dans votre vie.
Oui, par exemple ça, le pont Mirabeau.
Vous pouvez me faire écouter ?
Oui. C'est beau ça.
Sous le pont Mirabeau.
Qu'est-ce qu'il chante ? Vous aimiez danser?
La joie venait après la paix.
Mais pas seulement pour la danse. C'est beau, hein?
C'est beau. C'était pourquoi? C'était pour sentir le corps d'une femme?
Oui. Ses yeux. J'ai les femmes plaisent beaucoup.
Tandis que sous le pont.
Je suis trop sensible. C'est vrai?
Des éternels regards longs de silence.
Je devrais être plus raisonnable.
Vienne la nuit. Sonne l'heure, les jours s'en vont.
Vous seriez mort si vous étiez raisonnable.
Ah, peut-être. Peut-être.
L'amour s'en va comme cette eau courante. L'amour s'en va comme la vie est lente. Et comme l'espérance est violente, vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont. Je demeure.
Soixante-dix ans de mariage.
Oui.
Et puis depuis, vous vous brûlez le torchon. Alors, par les deux bouts.
Voyez-vous, quand ma femme est décédée à 90 ans, facilement, j'ai pleuré. Hein? Mais, en même temps, ça a été une libération. Oui, c'est vrai. Voilà. Oui. Comment expliquer le plaisir intense que j'ai ressenti ce matin à l'appel de Lisette? Je la croyais déçue de mes relations avec Dominique. Et Gabi, la plus sincèrement amoureuse, la seule qui, depuis 1946, provoque mon désir charnel le plus violent. Reste Yvonne, la nostalgie de l'amour fou, un feu qui couve toujours sous la cendre, un souvenir merveilleux, que le temps n'efface pas, mais embellit plutôt. C'est vous ? J'aime beaucoup les femmes. Non, mais je pourrais m'en passer. Je pourrais très bien vivre chaste, sans être tourmenté par des désirs quelconques.
Ah oui ?
Ah oui, ça vraiment. Je pourrais très bien vivre seul et puis sans femme, je le veux. C'est vrai, non, c'est vrai.
Vous êtes en train de me dire que ce sont les femmes qui viennent à vous?
J'ose pas dire. Non, je sens bien quand ça se sent, quand on peut.
Elle frappe discrètement à la porte. Sur un petit bout de papier, une déclaration. C'est pas sérieux du tout, hein. C'est pour moi? Qu'est-ce qu'il est en train d'écrire? Vous avez de beaux yeux? C'est pas sérieux, Marcel, hein? Vous avez de beaux yeux, à 40 ans, j'aurais été amoureux de vous. Oh, qu'est-ce que vous avez écrit après?
Maria.
Bonjour, Maria.
Bonjour, Marcel.
J'aurais été amoureux de vous.
Oui.
Qu'est-ce qu'il écrit après?
Au sens.
Aux deux sens. Qu'est-ce que vous entendez par là?
Passe les jours et passe les semaines, ni ton passé ni le amour revient.
Aujourd'hui j'ai 92 ans. Ben oui, je sais, vous avez 92 ans. Heureusement, j'ai 92 ans. Ah là là, mais vous me faites du genou sous la table en
non.
plus, hein? Non?
Oui.
C'est moi. Vous êtes incorrigible, hein? Ah oui, un amoureux incorrigible.
Vous n'avez pas écouté?
Ah oh, si, je l'ai écouté.
Nous qui désirons sans fin. Voilà. Voilà ce qu'on pourrait dire de Marcel, celui qui désire sans fin, mais qui me ressemble beaucoup parce que nous désirons sans fin que nous en ayons les moyens ou pas, vous entendiez. Les jours s'en vont, je demeure, voilà, il demeure, les jours s'en vont, mais il est toujours là, Marcel, avec ses 92 balais, comme disait mon papa, il est comme les poireaux, c'est-à-dire qu'il a le poil blanc et la queue verte, semble-t-il, d'après ce qu'il nous raconte, une rencontre heureuse, hein, une heure heureuse, que cette heure passée avec cet auditeur qui avait laissé un message, c'est pas le seul d'ailleurs qu'il a laissé, c'est toujours pertinent, et ce qui nous plaît toujours, c'est qu'il, encore une fois, c'est qu'il dit, ben, j'étais pas là, mais je sais que ça s'est passé, tel événement de l'histoire, ça change quand même de tous ceux qui vous racontent, ils étaient sur la photo, ça me rappelle le bouquin merveilleux de Topor qui s'appelle « Les mémoires d'un vieux con ». Et le vieux con, c'est ce personnage qui est absolument partout, qui a connu tout le monde et qui était aussi bien avec André Breton qu'avec Trotsky, qu'avec avec Freud, comme avec De Gaulle. Et c'était un personnage très comique. Et c'est un petit peu ça qu'on entend à longueur de micro, à longueur de radio, à longueur de médias. Et là, non. C'est un homme qui avait un pas de côté, mais c'était un pas de danse, et c'était un pas d'amour, et c'était un pas de réflexion, et c'était aussi évidemment un pas de passion. Mais à la fin de sa vie, il préfère s'en aller légèrement, un peu en bulle de savon.
Au fond, l'amour, c'est quelque chose qu'on prend peut-être trop au sérieux, non?
C'est difficile d'avoir un jugement sur l'amour. C'est difficile. Et puis, quelquefois, on aime, on dit qu'on aime. Est-ce que c'est l'être lui-même qu'on aime ou l'amour lui-même? Hein? Souvent, même avec Yvonne, je me pose. Parce que c'était une... Je l'aimais passionnément, mais il n'avait pas mes idées. Il n'avait pas mes goûts. On n'aurait pas pu vivre si on avait vécu conjugalement, ça aurait été une catastrophe.
On en revient toujours à cette définition de l'amour, quoi. C'est un peu pauvre comme terme.
Oui, oui. Oui, parce qu'il y a des nuances tellement extraordinaires.
Il faudrait inventer d'autres mots.
Oui.
Un vocabulaire amoureux.
Oui. Oui.
Moi, vous seriez tout à fait désigné pour faire ça.
Le vent dans tes cheveux blonds, le soleil à l'horizon, quelques mots d'une chanson, que c'est beau, c'est beau la vie. Un oiseau qui fait la roue sur un arbre déjà rond, et son cri par-dessus tout, que c'est beau la vie. Pouvoir encore partager ma jeunesse, mes idées, avec l'amour retrouvé, que c'est beau la vie. Pouvoir encore te parler, pouvoir encore t'embrasser, te le dire et le chanter, oui c'est beau la vie.
J'aime, oui, toujours, puis jamais être aimé. J'aime quand même. Oui, c'est le contraire, après, c'est ce qu'on dit.
C'est-à-dire qu'on a tous besoin d'y croire.
Il y a beaucoup de vieilles gens qui renoncent à l'amour. Qui disent, oh, ben maintenant, c'est fini. À notre âge, c'est terminé. Moi, j'ai jamais cru ça. Je me cramponne toujours à l'espérance. Et puis, je dois dire que les gens sont très gentils avec moi. Et je me demande pourquoi. Au fond, on aime que les gens vous aiment. Hein? On est sensible. On aime bien ça, les enfants. J'avais beaucoup plus peur de la mort à 50 ans qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, je n'en ai plus peur. Oui, c'est bizarre. Avant tout, tout réside dans la sensation. Alors quand ces sensations disparaissent, ben, tout disparaît aussi. Hein? Et je vois ça comme ça. Hein? Je crois que je vais m'endormir en quelque temps. Puis je finis.
La liberté fait toutes les puissances. Les règlements, les lois, les convenances, et les femmes, les bureaux, les maisons, ai-je raison? Alors, disons, mon vieux copain, la vie est belle, quand on connaît la liberté, n'attendons plus par son merveille, l'air pur est bon pour la santé. Partout, si l'on entend l'histoire, partout, on peut rire et chanter, partout, on peut aimer les croire. liberté. Pourquoi faut-il se compliquer la vie pour de l'argent se faire des vœux, alors qu'on peut suivre sa santé vie. Quand on est libre, on fait tout ce qu'on veut, on est heureux selon ses vœux. Mon vieux copain, l'ami des autres, vivons comme vivent les fleurs. Repensons-nous sur le secours, c'est le vrai secret du bonheur. Partout, si l'on en croit l'histoire, partout, on peut rire et chanter, partout, on peut aimer et voir. À nous la liberté. Il ne faut pas penser au mariage quand on est prêt pour courir et sonner en attendant d'être assagi par l'âge. Contentons-nous d'amour sans lendemain, c'est le destin, mon vieux copain. Mon vieux copain, la terre est ronde, les femmes vont de tout côté. Partout, si l'on emploie l'histoire, partout, on peut rire et chanter, partout, on peut aimer et voir. À nous la liberté.
Chanson extraite du film À nous la liberté de René Clair pour saluer notre Marcel Mathieu, né le 10 décembre 1910. C'était notre résistant, notre rescapé du jour. C'était un reportage de Claire Auter. Technique aujourd'hui, Patrick Henry, Étienne Michka, assistant Joël Levert. Le répondeur, c'est Christophe Humbert qui vous écoute quand les messages arrivent. Musique et assistant de réalisation, Coyen Guyenne. Le répondeur de la basse, j'y suis, vous connaissez le numéro, c'est le 01 56 40 37 37. 01 56 40 37 37. Et peut-être certains auditeurs ont été surpris parce que j'avais annoncé qu'aujourd'hui c'était l'émission avec le monde diplomatique. Ben voilà, ce sera le jour, ce sera peut-être demain. À chaque fois que j'annonce quelque chose du jour au lendemain, on décale la programmation. Merci à tous. Et puis alors, une chose qui est absolument interdite, je vous demandais surtout de suivre mon conseil, c'est de ne jamais aller sur le site pirate qui s'appelle LBSJS. Là-bas, si j'y suis en abrégé, lbsjs.free.fr, car sur ce site pirate, vous pouvez écouter tout un tas de numéros de Là-bas, si j'y suis. Mais c'est interdit, alors ne le faites surtout pas, je rappelle, lbsjs.free.fr. Voilà, c'est Antoine Chaot qui a réalisé cette émission modeste et géniale. Dans un instant, vous allez retrouver le nouveau Frédéric Bonneau, Charivari, avec son invité qui est Jean-François Balmer, et la chronique de Pierre Assouline. Qu'est-ce qui va se passer encore dans les jours prochains? Dans les jours prochains, dans les programmes de Là-bas, si j'y suis, on va célébrer le 11 septembre 1973 au Chili, et puis beaucoup d'autres choses que vous découvrirez le moment venu. Il est 17h, je vous dis salut et je vous laisse pour le journal avec Delphine Simon.